Vous écoutez, on lit pour vous.
Abus et violences vécues par les jeunes trans et non-binaires au Québec. Une étude de Naomi Jade Ladry, Annie Pollen Sans Façon, Nicolas Chadi, Kira London Nadeau, Ashley B. Taylor, Ace Chan, Lynn Chiniaria et Elisabeth M. Sewich. Paru le 16 novembre 2023 dans la revue Criminologie. Introduction. De plus en plus d'individus s'identifient comme étant des personnes trans ou non binaires, TNB, c'est-à-dire qui s'identifient en dehors des règles des genres masculins et féminins conventionnels. Les données canadiennes les plus récentes estiment le pourcentage de jeunes TNB âgés de 15 à 25 ans à 0,79% selon Statistique Canada en 2022. Une revue systématique internationale des données démographiques récentes estime que le nombre de jeunes TNB est de 1,2% à 2,7% chez les jeunes d'âge scolaire. Les expériences de violence et d'abus des groupes minoritaires sont souvent sous-tendues par des préjugés et des perspectives discriminatoires. Ces formes de violence se produisent à la fois dans la vie privée et dans des endroits publics. En effet, ces jeunes sont plus à risque de vivre différentes formes de rejet, de stress, d'abus et de violence de la part de membres de leur famille, de leur entourage ou dans le cyberespace que leur père cisgenre dû à la stigmatisation de leur identité de genre trans ou non binaire. Ces expériences de rejet et de violence mènent généralement à d'autres difficultés, notamment sur le plan de la santé physique et mentale. Ces expériences sont d'ailleurs souvent amplifiées par l'intersection des identités sociales et des oppressions, telles le genre, la classe sociale, l'âge, la race ou l'ethnicité. Par exemple, les recherches indiquent que les jeunes TNB assignés « filles » à la naissance sont plus à risque de vivre des expériences de victimisation par les pères, alors que les jeunes TNB assignés « garçons » sont pour leur part plus exposés au risque de subir des abus de la part de leurs parents que les jeunes de la population en général. Cela dit, le contexte ou l'environnement où se produit l'interaction est également à prendre en compte, car la capacité de la jeune personne à faire face à ces difficultés y est affectée. Par exemple, un privilège de classe pourrait permettre à une jeune personne TNB d'éviter certains espaces transphobes. Sur le plan des relations familiales spécifiquement, les évidences empiriques récentes montrent que les jeunes TNB subissent fréquemment des abus physiques, sexuels et psychologiques. Par exemple, les expressions ou comportements créatifs par rapport au genre chez l'enfant sont associés au risque d'abus par les parents. De plus, la révélation de soi peut être un moment difficile, voire dangereux pour la jeune personne TNB. En effet, si la révélation de son identité de genre peut entraîner un sentiment de soulagement, les expériences de violence et de rejet sont fréquentes. Les familles peuvent être solidaires et favoriser la résilience, mais peuvent également être source de difficultés. Même l'anticipation entourant le possible rejet ou les expériences de violence peuvent conduire les jeunes TNB à vivre des expériences de stress minoritaires. Par ailleurs, selon une étude conduite en Ontario, 67% des parents ne sont pas perçus par les jeunes comme étant très favorables à la transition sociale de leurs enfants. Une recherche plus récente menée au Québec indique qu'un tiers des jeunes de cette étude affirment manquer de soutien parental, ce qui peut entraîner de la vulnérabilité. De plus, le processus d'acceptation familiale peut être ardu et prendre du temps, ce qui peut entraîner des conflits au sein de la sphère familiale. L'attitude négative des familles peut se manifester par le rejet, des violences ouvertes, des comportements hostiles, le discrédit de la démarche de l'enfant, le non-respect de l'identité en mégenrant l'enfant ou en utilisant le morinum, etc. Par ailleurs, la discrimination et la violence subies peuvent prendre des formes extrêmes, telles que l'agression physique ou le refus de donner accès aux soins médicaux affirmant le genre. Ainsi, il est important de regarder les liens familiaux, car ils sont source de protection, permettant de compenser les difficultés vécues et ont des répercussions sur la santé mentale et physique des jeunes TNB. L'étude de Whitaker, Dirt Wesley et Ehrman démontre que les enfants ayant de solides liens familiaux, tels que la capacité de communiquer et recevoir du soutien, ont plus de chances de s'épanouir dans la vie. Les jeunes TNB vivent également des expériences de victimisation et de violence de la part de leurs pères. En effet, ces jeunes sont plus susceptibles de vivre des situations de violence et de victimisation multiples, qu'il s'agisse d'intimidation, de harcèlement sexuel, de relations sexuelles non consenties, d'abus sexuels, d'abus physiques et de violence au sein d'une relation, que les jeunes cisgenres. 6. Dans une recherche conduite dans l'État de l'Illinois, les jeunes trans étaient de 2,09 à 2,96 fois plus exposés au risque de vivre des expériences de victimisation par leur père que les jeunes hommes 6, et de 1,34 à 2,65 fois plus que les jeunes femmes 6. La même étude montre que les jeunes trans présentaient également des fréquences plus élevées de formes particulières de victimisation que les jeunes de genre divers. Gender Expansive Youth. D'ailleurs, le Youth Risk Behavior Survey 2017, un sondage effectué auprès de 131 901 étudiants et étudiantes de 10 États américains, dont 1,8% ont affirmé être trans, montre que les jeunes trans sont plus à risque que leurs pères cisgenres de vivre toutes sortes d'expériences de violence et de victimisation, incluant des relations sexuelles forcées, 23,8%, comparativement à 4,2% pour les garçons cis et 10,5% pour les filles cis, ou la violence en ligne, 29,6% comparativement à 10,2% pour les garçons cis et 19,3% pour les filles cis. Ainsi, un consensus semble se dégager des écrits que les expériences de violence et la victimisation par les pères sont significativement plus élevées chez les jeunes TNB que chez les jeunes cis. Au Québec spécifiquement, les informations sur les jeunes TNB sont plus rares, surtout en ce qui a trait à l'abus et la violence vécue. Par ailleurs, on sait que les jeunes TNB sont significativement plus exposés au risque d'être placés sous la direction de la protection de la jeunesse pour motif d'abandon que les jeunes cis, mais ces données montrent moins bien le risque d'abus comme motif principal de placement. L'étude de Raymond, Blais, Bergeron et Hébert, pour sa part, avait démontré que les jeunes TNB étaient plus susceptibles d'avoir vécu de la violence verbale et de la victimisation de la part de leurs parents que les jeunes cis, et que cette dernière était directement associée à une faible estime de soi et une plus grande détresse psychologique chez ces jeunes. En outre, d'autres travaux qualitatifs sur le vécu des jeunes TNB au Québec ont montré que les jeunes TNB subissent parfois de la violence psychologique ou physique de la part de leur famille, directement en lien avec leur genre, affectant ainsi leur bien-être. Puisque les expériences d'abus et de violence ont des conséquences importantes tant sur le plan de la santé mentale que physique, et que la recherche portant directement sur ces expériences de victimisation se fait encore très rare au Québec, cet article poursuit les objectifs suivants. 1. faire un portrait des jeunes TNB ayant vécu un ou des types d'abus. 2. Cerner le contexte particulier de cette violence. L'article focalise sur 4 des thématiques mises en évidence par l'enquête canadienne sur la santé des jeunes trans, ECSJT, en ligne, en lien avec l'abus et la violence vécue par les jeunes TNB au Québec, soit avoir été blessé physiquement par un membre de la famille, avoir été témoin de violence dans la famille, avoir déjà été abusé sexuellement et avoir déjà été victime de cyberintimidation. Vous écoutez « Abus et violences vécues par les jeunes trans et non-binaires au Québec », une étude de Naomi Jade Ladry, Annie Poulin Sans Façon, Nicolas Chadi, Kira London Nadeau, Ashley B. Taylor, Ace Chan, Lynn Chignara et Elisabeth M. Sewich, paru le 16 novembre 2023 dans la revue Criminologie. Cadre théorique. Contextualisation de la violence. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, la violence est une menace ou l'utilisation délibérée de la force physique ou du pouvoir contre soi ou toute autre personne pouvant entraîner plusieurs conséquences. Quant à l'abus, par exemple familial, il se produit lorsqu'un ou une adulte utilise la violence physique, émotionnelle, psychologique, sexuelle, pour contrôler et ou nuire. INSPQ 2022. Par ailleurs, le contexte est primordial afin d'évaluer le bien-être des jeunes TNB. Différentes recherches démontrent que les expériences discriminatoires associées à la diversité de genre peuvent causer des problèmes de santé mentale chez les jeunes TNB et celles-ci peuvent être vécues dans différents contextes familial, scolaire, institutionnel, etc. Selon la théorie du stress minoritaire de Meyer, ces jeunes sont plus exposés au risque de vivre de la détresse et sont davantage exposés à différents stresseurs externes, dont de la stigmatisation, un manque de reconnaissance, du non-soutien, de la violence, des expériences d'abus, etc. Ceux-ci pourront alors nuire à leur santé physique et mentale et entraîner l'apparition de stresseurs internes tels que de la transphobie internalisée et la dissimulation de leur identité de genre. Ainsi, Tan et ses collègues soulignent qu'il importe de prendre en considération l'intersection des identités ainsi que les contextes pour mieux saisir leurs expériences. C'est dans cette visée que notre article s'inscrit afin de brosser un portrait, mieux cerner le processus d'oppression et comprendre l'étendue des expériences de violence et d'abus vécues par les jeunes TNB au Québec. Méthode. L'ECSJT, une enquête bilingue en ligne, a permis de réaliser une collecte de données auprès d'un échantillon communautaire des jeunes TNB résidant au Canada. Menée pour la première fois en 2014, elle fut reprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2019. Pour l'enquête de 2019, 1519 participants ont répondu au sondage, permettant de recueillir des données sociodémographiques, des données concernant leurs identités et expériences de genre, leur santé générale et mentale, leur contexte social et linguistique, les formes d'abus et de violences subies, leur connectivité avec l'école, les liens avec la famille et les pères, et la consommation de drogue. Pour cet article, seuls les résultats des jeunes TNB résidant au Québec et concernant les différentes formes d'abus et de violences, physiques, sexuelles et cyberintimidation, ont été inclus. Recrutement des participants-participantes. Le recrutement des participants-participantes s'est fait avec l'aide de 6 réseaux de chercheurs-chercheuses, personnes concernées et d'organismes partenaires établis au Canada. L'enquête en ligne a été diffusée à travers les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et les réseaux de différents organismes. 130 de soutien aux jeunes 2SLGBTQIA+, à travers le Canada. Elle a également été communiquée à des professionnels de la santé travaillant avec ces communautés. Ces dernières ont transmis le lien de l'enquête aux personnes utilisant leurs services. Les participants-participantes étaient invités à répondre à l'enquête, soit en français, soit en anglais, de façon volontaire et anonyme. Pour le Québec seulement, l'échantillon comprend un total de 220 jeunes TNB âgés de 14 à 25 ans habitant la province qui ont accepté d'y répondre. L'âge moyen était de 20 ans. Deux versions de l'enquête ont été créées afin de proposer des questions pertinentes et davantage adaptées aux participants-participantes en fonction de leur groupe d'âge, 14 à 17 ans et 18 à 25 ans. Collecte de données. L'enquête en ligne s'est intéressée à plusieurs aspects de la vie des participants-participantes. Les données sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, l'emplacement géographique, l'origine ethnique ou culturelle, la langue, ont été recueillies au début de l'enquête. L'identité de genre a été évaluée par la question « Quelle est votre identité de genre ?» permettant aux participants-participantes de sélectionner leurs identités de genre parmi 16 différentes options proposées, garçon ou homme trans, fille ou femme trans, non-binaire et n'étant pas trans, et il-y-elle pouvait ajouter d'autres options s'il-y-elle considérait que leur identité n'était pas inscrite sur la liste. Il a été demandé aux participants-participantes de cocher l'identité qui s'appliquait davantage à la leur parmi trans masculine, homme, trans féminine, femme et non-binaire. Ces catégories ont été utilisées pour guider les analyses présentées dans cet article. Les personnes qui se sont identifiées comme n'étant pas trans ont indiqué une identité non-binaire dans les commentaires et ont donc été ajoutées dans la catégorie déjà existante. D'autres questions ont été proposées afin de décrire le vécu des participants-participantes dans leur identité de genre désirée et leur orientation sexuelle. Des informations concernant l'abus et la violence, sécurité, discrimination et violence, ont également été rapportées au sein de l'enquête, dont le fait d'avoir été victime ou témoin d'abus physiques et de violences dans leur famille au cours des 12 derniers mois. Des informations sur les abus sexuels ont également été recueillies en demandant aux participants « Avez-vous déjà été victime d'abus sexuels ?» On a également demandé aux participants-participantes si elles avaient déjà été victimes de cyberintimidation. Par ailleurs, le score de connectivité familiale a été établi avec des questions telles que « À quel point pensez-vous que votre famille se soucie de vos sentiments ?» ou « À quel point pensez-vous que votre famille respecte votre vie privée ?» Ce type de question a été mesuré avec une échelle en 5 points, de « pas du tout » à « beaucoup ». De plus, la proximité parentale a également été évaluée par des formulations telles que la plupart du temps, ma mère, mon père, ou la personne que je considère comme ma mère, mon père, est chaleureux, chaleureuse et aimant, aimante envers moi. Finalement, la connectivité scolaire a été mesurée par des affirmations telles que « J'ai l'impression de faire partie de mon école » ou « Je me sens en sécurité dans mon école », pour lesquelles les jeunes choisissaient la réponse qui convenait davantage sur une échelle de 4 points, pas du tout, en accord, à tout à fait d'accord. Finalement, les participants-participantes pouvaient répondre en français et ou en anglais, selon leurs préférences, avec la possibilité de passer d'une langue à l'autre en cliquant sur un bouton présent sur chaque page du questionnaire. Vous écoutez « Abus et violences vécues par les jeunes trans et non-binaires au Québec », une étude de Naomi Jade Ladry, Annie Poulin sans façon, Nicolas Chadi, Kira London Nadeau, Ashley B. Taylor, Ace Chan, Lynn Chiniara et Elisabeth M. Sewitch, paru le 16 novembre 2023 dans la revue Criminologie. Résultat. Parmi les 1519 participants-participantes à l'étude de 2019, 220 jeunes TNB résidaient dans la province de Québec. Ces dernières ont été incluses dans la présente analyse. La majorité est francophone, 70,9%, et se retrouve dans le groupe plus âgé ayant de 18 à 25 ans, 75,5%. De plus, la majorité des jeunes de l'échantillon de la recherche s'identifient comme étant de race blanche, 88,1%, et environ la moitié, 48,2%, comme garçon-homme trans. De plus, sur les 220 participants-participantes, 136, 61,8%, s'identifient comme personnes trans-binaires et 84, 38,2% comme des personnes non-binaires. Comparativement aux jeunes non-binaires, le groupe transbinaire comporte une proportion plus élevée de jeunes francophones qu'anglophones, 67,9% contre 46,9%. Néanmoins, il est important de rappeler que parmi les données ciblées, plusieurs des jeunes répondants-répondantes n'ont pas vécu d'abus ou de violence. Blessé physiquement par un membre de la famille. Environ un participant-participante sur cinq, 19,3%, a indiqué qui, elle, a été blessée physiquement par une membre de la famille. Parmi le groupe de 14 à 17 ans, 34,2% des jeunes avaient été blessés par une membre de la famille au cours de la dernière année, tandis que cette proportion était plus faible chez les jeunes plus âgés, 18 à 25 ans, représentant 14,6% de ce groupe. Quant aux résultats nationaux, la proportion est également plus élevée chez le groupe moins âgé que chez celui plus âgé, 19,6% contre 6,8%. En contrôlant pour l'âge, les jeunes ayant un faible niveau de liens familiaux avaient plus de risques d'avoir été blessés physiquement par une membre de la famille. Témoins de violence dans la famille. Parmi les répondants-répondantes, la majorité n'a pas été témoin de violence au sein de la famille, 83,2%. Chez les jeunes trans binaires, 14,3% avaient été témoins de violence au sein de la famille, tandis que cette proportion s'élevait à 20,6% chez les jeunes non-binaires. De plus, l'on compte une proportion plus élevée de jeunes de 14 à 17 ans ayant été témoins de violence au sein de la famille, 23,7% contre 14,6%, et l'on remarque le même phénomène dans les résultats nationaux, 26,2% contre 13,3%. Les résultats étaient aussi similaires pour les jeunes francophones, 16,2%, et les jeunes anglophones, 18%. Les résultats de la régression logistique multivariée ont révélé que les liens familiaux étaient associés à être témoins de violence. Ainsi, nous constatons que de meilleurs liens diminuent les probabilités de violence. A été abusé sexuellement. Près de la moitié des répondants-répondantes, 44,1%, ont répondu qui, elles, ont été abusées sexuellement par une membre de la famille ou une personne extérieure à celle-ci. Dans les analyses de groupes d'âge, il y avait significativement plus de jeunes de 18 à 25 ans, 50,4%, qui ont été abusés sexuellement que de jeunes de 14 à 17 ans, 23,7%. Sur le plan national, nous remarquons que pour les 14 à 17 ans, les résultats sont plus élevés, 35,5%, mais relativement les mêmes pour les 18 à 25 ans, 49,5%. Lorsque les groupes linguistiques ont été évalués séparément, 42,9% des francophones et 46,9% des anglophones avaient vécu des abus sexuels. En contrôlant pour l'âge, nous n'avons pas trouvé d'association entre la connectivité familiale et scolaire ainsi que la probabilité d'avoir subi des abus sexuels. À la question « Avez-vous déjà été physiquement forcé d'avoir des rapports sexuels alors que vous ne le vouliez pas ?» 51 des 163, 31,3% répondants-répondantes ont répondu « Oui ». Parmi ces personnes, l'on compte 26,3% de jeunes trans et 39,1% de jeunes non-binaires. Les résultats nationaux démontrent une diminution de près de 10% pour les jeunes non-binaires, 29,8%, alors que pour les jeunes trans, le pourcentage est similaire, 26,5%. Parmi le groupe moins âgé, 10,5% ont été forcés d'avoir des rapports sexuels, tandis que cette proportion est plus élevée chez le groupe plus âgé, représentant 37,6%. Ces proportions représentent une différence significative entre les deux groupes d'âge. De plus, parmi ces jeunes, 28,3% sont francophones et 38% sont anglophones. Ensuite, les participants-participantes ont répondu aux questions sous-jacentes, à savoir si elles avaient été touchées sexuellement par une membre de la famille ou par une adulte extérieure à la famille. À la question concernant une membre plus âgée ou plus forte de leur famille, 21 des 162, 14,9% participants-participantes ont répondu oui. Sur le plan national, cela représente 14,1%, soit 172 des 1218 répondants-répondantes. Parmi les répondants-répondantes, l'on compte 11,2% de jeunes trans et 15,6% de jeunes non-binaires. Les résultats étaient aussi similaires pour les jeunes francophones, 11,6%, et les jeunes anglophones, 16%. Quant à la question concernant une adulte ou une autre personne extérieure à sa famille, 28 jeunes trans, 28,6%, et 26 jeunes non-binaires, 40,6%, ont répondu avoir touché, été touché sexuellement contre leur gré. Ces situations sont par ailleurs plus fréquentes chez les jeunes plus âgés, 39,5%, que chez les 14 à 17 ans, 13,2%. Ces proportions représentent une différence significative entre les deux groupes d'âge. Sur le plan national, les résultats étaient un peu plus élevés pour les jeunes de 14 à 17 ans, 20,1%, et similaires pour les 18 à 25 ans, 35,7%. Les résultats sont similaires pour les jeunes francophones, 32,1%, et les jeunes anglophones, 36%. A déjà été victime de cyberintimidation. Sur un total de 159 participants-participantes, 41, 25,8% ont répondu avoir été intimidés ou harcelés sur Internet. Par exemple, quelqu'un, quelqu'une a publié quelque chose sur Facebook ou a envoyé un e-mail. Les résultats étaient aussi similaires pour les jeunes trans et les jeunes non-binaires, 26,8% contre 24,2%. Parmi ces participants-participantes, la proportion est plus élevée chez le groupe plus âgé, 29,8% contre 13,2%. Sur le plan national, la tendance s'inverse car ce sont les jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ont vécu plus de cyberintimidation que les jeunes âgés de 18 à 25 ans, 32,7% contre 30,9%. Parmi les répondants-répondantes ayant été cyberintimidés, 28,2% sont de jeunes francophones et 20,4% sont de jeunes anglophones. Vous écoutez « Abus et violences vécues par les jeunes trans et non-binaires au Québec », une étude de Naomi Jade Ladry, Annie Poulaine Sans Façon, Nicolas Chadi, Kira London-Nado, Ashley B. Taylor, Ace Chan, Lynn Chignara et Elisabeth M. Sewich, paru le 16 novembre 2023 dans la revue Criminologie. Discussion. L'enquête en ligne a révélé que plusieurs jeunes TNB ont vécu une ou des expériences d'abus et ou de violence par un membre de la famille, de l'entourage ou sur les réseaux. Bien que la majorité, 80,7% de l'échantillon affirment ne pas avoir été blessés physiquement par une membre de la famille dans les 12 derniers mois, 31 participants participantes, 19,3%, ont rapporté avoir été victimes de violences physiques. Les jeunes de 14 à 17 ans sont significativement plus exposés au risque que les jeunes plus âgés d'avoir été blessés par une membre de la famille, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les jeunes plus âgés ont un plus grand niveau d'autonomie et pourraient décider de quitter le foyer familial, par exemple, si la situation s'avérait hostile, ce qui est plus difficile pour les plus jeunes. En effet, les conflits familiaux et le manque de soutien peuvent entraîner des tensions et ces jeunes peuvent ne pas se sentir en sécurité à leur domicile. D'ailleurs, chez les jeunes Québécois-Québécoises âgés de 18 à 25 ans, 39,2% vivent avec leur mère et 27,6% avec leur père, comparativement aux jeunes de 14 à 17 ans, chez qui on compte 92,3% vivant avec leur mère et 82,7% avec leur père. Les données indiquent que cette situation serait également plus fréquente chez les francophones que chez les jeunes anglophones, renforçant ainsi l'importance de prendre en compte le contexte lors d'interventions auprès des jeunes TNB. La langue pourrait avoir une forte incidence sur les conditions de vie des jeunes TNB, puisqu'elle constitue une dimension importante de l'affirmation de soi, d'une part, et qu'elle peut s'avérer un aspect tant oppressant qu'émancipateur pour certains groupes, y compris les personnes TNB. L'article de Landon Nadeau et leurs collègues met en évidence qu'elle est vectrice de bien-être, de lien familial et de validation, ce qui diminue les risques d'adversité et que les langues plus genrées entraînent des obstacles supplémentaires pour les jeunes TNB. Puisque certains mots, tels que les pronoms non-genrés comme « iel »,« iel », ne font leur apparition dans le dictionnaire Robert qu'en 2022, alors que le Merriam-Webster avait son équivalent en anglais « they, them », et que l'anglais est souvent considéré comme la langue dominante en science, le manque de vocabulaire pour se nommer ou s'affirmer en tant que jeune personne non-binaire pourrait y être pour quelque chose. Par ailleurs, l'étude de Barry montre qu'à cause de l'omniprésence de la langue anglaise, les personnes trans non-anglophones peuvent éprouver des difficultés supplémentaires dans leur recherche d'informations sur les soins de santé et autres services, car il y a une différence évidente pour ce qui est du nombre de ressources qui leur sont offertes. Nous constatons d'ailleurs que, dans notre échantillon, une proportion plus importante de jeunes s'identifient comme non-binaires chez les anglophones que chez les francophones. En outre, les résultats semblent confirmer ceux des études précédentes en ce qui a trait au soutien parental, à savoir que les jeunes TNB ont moins de risques de subir de la violence lorsqu'ils sont soutenus par des membres de leur famille. En effet, les analyses de régression ont permis de constater que les jeunes ayant été victimes de violences étaient moins susceptibles de mentionner avoir de forts liens familiaux. Ainsi, notre étude contribue au développement des connaissances sur l'influence des liens familiaux sur la réduction des risques de violence dans le milieu familial et à l'incidence possible de la langue sur le vécu des jeunes TNB quant aux expériences de violence. En effet, l'étude de Bagley et Malik met en évidence que les jeunes ayant subi certains types d'abus combinés avec d'autres formes de violence étaient plus susceptibles de vivre un fardeau à long terme et donc, il est important de prévenir le développement de problèmes de santé mentale graves. Près de la moitié des jeunes TNB, 44,1%, ont indiqué avoir déjà été abusés sexuellement. Toutefois, comme mentionné dans différentes études, il est vraisemblable que le pourcentage d'abus sexuels soit plus important, car certaines participantes pourraient avoir choisi de ne pas le rapporter, même s'il s'agissait d'un sondage électronique et que les résultats allaient être établis de façon anonyme. Si nos données ne nous permettent pas de discerner le nombre d'abus sexuels perpétrés par la famille de ceux commis par des membres de l'entourage, les recherches montrent que les auteurs d'agressions sexuelles sont souvent connus de la victime. Dans cette optique, la proximité fréquente entre l'agresseur-agresseuse et la victime, ainsi que le risque pour cette dernière de faire face à diverses discriminations concernant son identité de genre, peuvent influencer le rapport des agressions sexuelles. Par exemple, des études ont démontré que les jeunes TNB vivent souvent des expériences de violence et d'abus sexuels dans les toilettes de leur sexe assigné à la naissance et à la suite d'expériences de discrimination menant rapidement à la violence et à l'abus sexuel. D'autres études montrent aussi que les jeunes TNB deviennent victimes d'abus sexuels à cause de leur résistance à modifier leur comportement et expression de genre non conforme socialement, incluant par leurs parents et même en contexte de trafic de mineurs pour exploitation sexuelle. Nos résultats démontrent que les jeunes issus de la diversité de genre sont susceptibles d'être forcés de subir des rapports sexuels non désirés. Les périodes de transition sont connues pour constituer un moment de vulnérabilité particulier relativement aux agressions physiques et sexuelles, et les jeunes trans sont plus exposés au risque que les jeunes cisgenres de vivre des abus de toutes sortes, incluant des abus sexuels. Ceci pourrait expliquer le pourcentage élevé de jeunes ayant vécu des abus sexuels. Les études antérieures avaient démontré que le soutien parental était un facteur de protection important pour les jeunes TNB et diminuait par exemple les risques de suicide puisque le soutien parental peut limiter la détresse psychologique et aider à consolider la résilience chez leur enfant. Cela dit, le soutien parental ne peut pas être considéré comme un facteur protecteur contre toutes les difficultés. Par ailleurs, l'Institut de la statistique du Québec, en 2020, met de l'avant qu'en 2014, le taux d'incidents de victimisation avec violence des jeunes âgés de 15 à 24 ans est de 131,5 pour 1000 personnes. Dans un autre ordre d'idées, plus d'un quart des participants-participantes ont affirmé être victimes de cyberintimidation. Les recherches antérieures ont démontré que les jeunes TNB sont plus fréquemment victimes de violences et de cyberintimidation et que, parmi les populations trans, l'intimidation est plus courante parmi les personnes qui se présentent comme non conformes au genre. Gender non-conforming. Si l'utilisation accrue d'Internet offre un environnement permettant à ces jeunes d'explorer anonymement des aspects personnels de leur vie et de développer des liens avec les communautés, elle peut également mener à des expériences d'intimidation, parfois même venant des personnes de leur propre communauté. Lorsque nous examinons des statistiques sur la jeunesse, environ 13% des jeunes cis âgés de 15 à 29 ans ont vécu de la cyberintimidation, Institut de la statistique du Québec, en 2020. D'ailleurs, les résultats de l'enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens démontrent que les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, âgés de 18 à 29 ans, étaient deux fois plus exposés au risque de subir de la cyberintimidation que les jeunes cis et hétérosexuels. Limites. Parmi les limites de l'étude, notre échantillon est majoritairement francophone. De plus, nous n'avons pas mesuré la classe sociale, occupation des parents, échelle de revenus, etc. D'ailleurs, il est important de rappeler que l'analyse des données a été faite en sélectionnant différentes caractéristiques, langue, âge et identité de genre, au détriment d'autres variables. Par ailleurs, notre échantillon est relativement petit concernant les questions sur l'abus, 159-161 sur 220. Plusieurs participants-participantes n'ayant pas répondu à ces questions et donc les résultats, même ceux étant statistiquement significatifs, doivent être interprétés avec prudence. Inversement, il est aussi possible que certaines associations auraient pu devenir significatives avec un échantillon plus grand. De plus, l'enquête en ligne ayant été diffusée à travers différents réseaux et organismes pour les jeunes 2SLGBTQIA+, ainsi que par des professionnels travaillant avec ces communautés, elle représente possiblement un échantillon plus susceptible de faire appel à ces services et donc pourrait ne pas être représentatif de l'ensemble de la population TNB du Québec. Cependant, en passant par ces différents réseaux, cela a pu entraîner une sous-représentation des jeunes TNB des communautés vulnérabilisées. En effet, ayant un échantillon principalement de race blanche, nos résultats pourraient ne pas fidèlement rendre compte des populations de différents groupes raciaux, ethniques et culturels vivant au Québec. Conclusion. Cet article a cherché à contribuer au corpus relativement restreint relatant les différentes formes d'abus et de violences vécues par les jeunes TNB et représente une des premières recherches sur ce sujet dans un échantillon de jeunes TNB au Québec. L'étude, bien que conduite sur un petit échantillon de jeunes au Québec, renforce l'idée que les recherches futures devraient porter une plus grande attention au contexte qui entoure les jeunes TNB. Qu'il s'agisse d'éléments socioculturels comme la langue ou encore de dimensions sociales comme l'école et la famille, ils affectent les expériences d'abus et de violence. En effet, les expériences de violence, l'adoption de comportements violents et les conséquences à long terme sur la santé démontrent la pertinence d'intervenir et de fournir des efforts soutenus afin de prévenir les comportements violents et éviter la transmission de ceux-ci à un niveau intergénérationnel. Mieux comprendre les dimensions pouvant affecter les expériences de violence et d'abus permettra de mieux identifier les interventions les plus efficaces pour les prévenir et entamer des changements sociaux. C'était « Abus et violences vécues par les jeunes trans et non-binaires au Québec », une étude de Naomi Jade Ladry, Annie Poulaine-Sans-Façon, Nicolas Chadi, Kira London-Nadeau, Ashley B. Taylor, Ace Chan, Lynn Chignara et Elizabeth M. Sewich, paru le 16 novembre 2023 dans la revue Criminologie.
Thomas Berger et les causes juridiques autochtones, un texte de Denis Laure, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale. Avec, à l'avant-plan, l'enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, l'avocat et juge Thomas R. Berger fut un protagoniste incontournable du règlement des revendications autochtones. Le livre collectif « Against the Odds, contre toute attente », dirigé par Drew Ann Wake, témoigne de ses contributions. C'est indubitablement à l'enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, qu'on appelle d'ailleurs communément la Commission Berger, qu'est avant tout associé le nom de Thomas Berger, 1933-2021. Cette commission d'enquête, 1974-1977, était d'un genre à l'époque inédit et d'une envergure conséquente au projet de pipeline de gaz dont elle devait étudier les répercussions sociales, environnementales et économiques. Nommée par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau, le juge Berger mena des audiences dans 35 collectivités du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans des villes du Sud. Au terme de la commission, il recommanda au gouvernement canadien de mettre en place un moratoire de 10 ans sur la construction d'un pipeline et de régler avant tout les revendications territoriales Inuvialuit, Métis et Déné. Le Nord, terre lointaine, terre ancestrale, rapport de l'enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, compte plus de 500 pages. Faire une différence. si la commission Berger n'a pas accéléré le règlement des revendications, avançait en 2021 l'aîné et ancien journaliste ténois Paul Andrew, elle a instillé au sein du pouvoir fédéral l'utilisation d'une terminologie révélatrice avec des termes tels que « gouvernement autonome » et « droits autochtones ». Des choses qu'il n'avait jamais reconnues avant, soulignait M. Andrew. Thomas Berger a fait une différence, pas seulement pour les autochtones dans le Nord, mais partout au Canada. Autre cas significatif. Si l'ouvrage, dirigé par Joanne Wake, réalisatrice, productrice multimédia et ancienne journaliste de CBC à Yellowknife, commente abondamment cette démarche historique, d'autres causes impliquant Thomas R. Berger sont également analysées dans des contributions de l'ancienne avocate métisse Jean Tuyet, de l'ex-présidente du Conseil Inuit circumpolaire Dali Sambo Doro, du professeur de droit Michael Jackson et de Thomas Berger lui-même. Dès 1963, ce dernier a défendu en Colombie-Britannique les chasseurs Clifford White et David Bob, accusés, malgré un traité datant du 19e siècle, d'avoir chassé illégalement. La cause devait se rendre en Cour suprême du Canada et être considérée comme la première salve des peuples autochtones du Canada dans leur quête pour rétablir la reconnaissance et le respect pour leurs droits autochtones et de traités. L'Alaska, la pile. Au milieu des années 1980, doté d'une célébrité dépassant les frontières du Canada, M. Berger fut embauché pour une révision de la loi sur le règlement des revendications des Autochtones de l'Alaska, dans le cadre de laquelle furent menées 36 audiences communautaires, avec des résultats cependant moins heureux que dans la décennie précédente. Plus tard, aux côtés de l'avocate Margie Rosling, il œuvra pour la Société pour la nature et les parcs du Canada, la Yukon Conservation Society et 4 collectivités Gwich'ins afin que soit accordée une protection légale au bassin versant de la rivière Peel. Against the Odds s'enrichit d'une section photographique illustrant les causes abordées et de témoignages après coup des protagonistes de celles-ci. Cause absente du livre, au début du 21e siècle, M. Berger se vit attribuer le rôle de médiateur entre le Canada, le Nunavut et Nunavut-Tungavik, Incorporated, pour la mise en œuvre de l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Dans Against the Odds, j'ai tenté de tisser la passion de Tom pour ce que le système juridique peut amener de justice aux Premières Nations, avec ma propre conviction que le courage et la détermination des familles, des leaders et des communautés autochtones ont forcé les Canadiens à régler ces problèmes. Témoigne Joanne Wake. C'était Thomas Berger et les causes juridiques autochtones, un texte de Denis Laure, paru le 7 novembre 2024 dans L'Aurore boréale.
Appel de la SOFA et de KFAM à une meilleure représentation des femmes dans les espaces de pouvoir en Haïti. Un texte de la rédaction paru le 5 novembre 2024 dans Alter Press. Les organisations Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, et KFAM plaident pour une meilleure représentation des femmes dans les espaces de pouvoir lors d'interventions à l'émission What Lead, diffusée sur Alter Radio 106,1 FM et suivie par l'agence en ligne Alter Press. Cette représentation des femmes doit passer d'abord par l'appropriation des désidérata des femmes par les prétendantes et prétendants aux postes de responsabilité, souligne la coordonnatrice de la SOFA, Mergina Fleurima, et la responsable de KFANM, Danielle Magloire. Alter Radio, émettant de Port-au-Prince sur le 106,1 FM et en ligne, a lancé le 31 octobre 2024 une série de réflexions sur la question des élections en Haïti. Il s'agit de 8 programmes spéciaux multimédia réalisés dans le cadre de l'émission Forum Fouetlid avec l'appui de l'organisme international Internews. L'objectif poursuivi est d'informer et contribuer à alimenter des échanges et réflexions sur les enjeux cruciaux des prochaines élections en Haïti. SOFA et KFAM appellent particulièrement les futures candidates à prendre en compte les revendications sociales des femmes dans leur campagne, à l'approche d'éventuelles prochaines élections en Haïti, qui devraient avoir lieu fin 2025. Un conseil électoral provisoire, CEP, composé de 7 membres sur 9, a été installé le vendredi 18 octobre 2024, en attendant d'être complété par 2 représentants issus des organisations de droits humains et de femmes. Ce CEP devrait organiser des élections générales pour doter le pays d'élus légitimes devant entrer en fonction le 7 février 2026, suivant l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, signé le 3 avril 2024 par des protagonistes politiques en vue d'un dénouement à l'impasse politique. Plaidoyer de la SOFA pour la santé des femmes. Durant l'émission réalisée sur le thème « Revendications des femmes et élections », la SOFA recommande la création d'une unité de santé sexuelle et reproductive dans les centres de santé communautaires, un service de maternité efficace dans les hôpitaux afin d'aider les femmes à contrôler leur pouvoir de procréation et à accoucher dans de bonnes conditions. Elle encourage également des actions de sensibilisation des jeunes pour un comportement sexuel responsable, pouvant éviter les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles. Les conseils municipaux ont l'obligation d'établir un système de protection des droits des femmes, notamment à travers leur direction des affaires sociales, dans le but d'accueillir les femmes victimes de violences et les plus vulnérables, les orienter et les encadrer, affirme la coordinatrice de la SOFA, Mergina Fleurima. La SOFA préconise la construction d'établissements scolaires pour accueillir les enfants dans les sections communales, devant être dotés de centres de santé adéquats. La SOFA invite les futurs parlementaires à légiférer sur les questions cruciales touchant les femmes, en votant des lois favorisant l'égalité homme-femme, ainsi que sur l'encadrement médical pour des femmes victimes de violences. Elle critique la non-application des conventions et des lois signées par Haïti en matière de droits des femmes. En outre, elle exhorte les actrices et acteurs à défendre les femmes travaillant dans le secteur informel, qui sont exclues du système financier étatique, sans aucun accès au crédit au sein des organismes déconcentrés et autonomes de l'État, dont l'Office national d'assurance vieillesse, ONA. Elle suggère aux conseils municipaux d'établir des connexions avec des responsables d'autres secteurs pour parvenir à des dispositions communales en faveur des femmes. Les revendications des femmes doivent être insérées dans les programmes des administrations communales, souhaite la SOFA. KFANM demande aux femmes de se mobiliser pour la défense de leurs droits. De son côté, la sociologue et militante féministe Danielle Magloire de KFANM estime nécessaire que les femmes continuent de se mobiliser pour revendiquer leurs droits et pouvoir participer au processus de développement de leur pays, comme ce fut le cas pendant la fin des années 1980, période coïncidant à la chute de la dictature des Duvaliers et à l'avènement de la démocratie en Haïti. KFANM continue son plaidoyer pour la participation et l'intégration des femmes dans l'espace politique haïtien et dans la construction de la démocratie. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis 40 ans, depuis 1984, reconnaît-elle, tout en réclamant une présence significative des femmes dans les espaces politiques. KFANM condamne les violences et les actes de discrimination à l'égard des femmes dans les périodes électorales, appelant les partis politiques à combattre ces pratiques. Elle déplore un manque d'intérêt pour les préoccupations des femmes, une logique s'inscrivant dans un souci d'instrumentalisation. L'organisation féministe KFAM interpelle l'État à résoudre le problème de la sécurité pour que les femmes puissent s'exprimer normalement et librement. Elle évoque également le rôle du Conseil électoral, qui devrait mettre en place des processus favorisant la participation des femmes aux élections. KFAM encourage les femmes à s'engager dans la vie politique et à être actives dans le processus d'observation des élections. Elle met aussi l'accent sur l'établissement de critères pour qu'une prétendante et qu'un prétendant aux élections puissent bénéficier de l'appui de l'État. Elle appelle à revoir la loi sur les partis politiques, qui a été modifiée sous l'administration du président Joseph-Michel Martelly en 2013. La loi sur les partis politiques doit tenir compte du quota constitutionnel d'au moins 30 % prévoyant la participation des femmes et des lois de politique publique contre les violences faites aux femmes et en faveur de l'égalité homme-femme, insiste la sociologue Danielle Magloire. L'article 17.1 de la version dite « amendée » de la Constitution haïtienne de 1987 a reconnu, en 2012, le principe d'un quota de 30 % de femmes à tous les postes de décision de la vie nationale, notamment dans les services publics. Cette disposition exige de tenir compte d'une représentation minimale des deux sexes, femmes et hommes, dans les espaces de pouvoir. Prochain thème à aborder. Les autres émissions, prévues une ou deux fois par semaine, seront réalisées sur les thèmes suivants. Revendications sociales des jeunes et élections, revendications sociales des paysans et élections, revendications sociales des ouvriers et travailleurs du secteur informel et élections, revendications des personnes vivant avec des handicaps et élections, participation électorale et légitimité des élus, responsabilité de l'État, du Conseil électoral, des partis politiques et de la société civile pour garantir la validation de candidats qualifiés aux élections. Rôle et responsabilité des acteurs, Conseil électoral, partis politiques, candidats, gouvernement, police, société civile, médias, dans la prévention de la violence électorale. Également sur la question électorale, le groupe Média Alternatif, qui gère les médias Alter Radio et Alter Presse, est partie prenante du projet Combit pour bon Jean Démocratie, appuyé par l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'était « Appel de la SOFA et de KFAM à une meilleure représentation des femmes dans les espaces de pouvoir en Haïti », un texte de la rédaction paru le 5 novembre 2024 dans Alter Presse.